Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre émission de cinéma sur Transistor. Et pour ce premier numéro de cette année 2018, notre toile se fait crayeuse, mélancolique et pour ainsi dire fantomatique pour Ghost Story de David Lowry. Quant aux yeux, ce sont ceux de Caroline et de Maë qui se penchent aujourd'hui sur le film. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire de fantôme? C'est d'abord l'histoire d'un couple dont on ne connaîtra pas le nom d'ailleurs. Un couple qui est brutalement déchiré par un accident de voiture qui va emporter l'homme, donc qui est compositeur de musique parallèlement à ça, ce qui sera l'occasion d'une chanson assez magnifique, mais on y reviendra. Et cet homme donc qui meurt va se transformer en fantôme et revenir hanter cette maison qui n'est plus la sienne, ou en tout cas plus pour très longtemps, qui va revenir hanter celle qu'il aime et qui va quitter cette maison, puis rester dans cette maison éternellement, on ne sait pas, on le saura peut-être à la fin du film. Allez, regardez passer le temps finalement avec une mélancolie, deuxième fois que j'utilise le mot, vous comprenez que ça va vraiment traverser cette émission, je sens, qui nous emporte, qui m'a emporté en tout cas, mais ça je dois le dire plus tard. Pour l'instant je me tourne vers vous, Caroline et Maë, après ce résumé pas facile, pour vous demander quel est votre avis sur ce film.
Alors moi j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que voilà, c'est un film qui est lent, qui est silencieux, et pendant toute la durée du film j'étais complètement subjuguée par ce qui se passait sur l'écran, et j'admirais juste, je laissais juste les images défiler, les sons défiler, et voilà, je profitais.
Alors oui, effectivement, je te rejoins, Maë, sur cette impression de lenteur que je trouve est vraiment difficile de rendre dans un film sans forcément la rendre soporifique. Et ce film y arrive particulièrement bien à respecter ces cadences très très lentes, tout en nous gardant scotchés et en créant cette espèce de poésie qui s'étire tout le long du film.
Bon, je crois qu'on sera d'accord, hein, c'est... D'une part, c'est extrêmement bien, c'est vraiment positivement très bien fait, et par-dessus ça, le nombre d'écueils que le réalisateur a évité est absolument vertigineux. Enfin, c'est-à-dire que ça réussit à ne jamais tomber dans une espèce de démonstration tapageuse qui se résume à son espèce de dispositif qui est quand même très présent, mais qui, ça fonctionne sans jamais, on voit jamais les ficelles. Et ça parvient à rester dans le pur régime de cette mélancolie qui nous emporte et qui est vraiment magnifique. Et c'est vraiment l'un des films les plus tristes que j'ai pu voir au cinéma, par cette impression de vide total qu'il a réussi à rendre. Et fait peut-être quelque chose de pédant à dire que c'est super dur de faire du vide au cinéma parce qu'il y a des images, mais c'est quand même, il y a vraiment quelque chose du coup de force de nous donner ce sentiment d'un véritable néant, et c'est extrêmement, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien fait et puis extrêmement beau au-delà de tout l'aspect technique. Et peut-être pour enchaîner justement sur la technique, parce qu'elle est quand même mise à... Enfin, je veux dire, oui, il y a vraiment un effort sur l'image déjà, le format en 4 tiers qui est quand même très très resserré, qui nous met aussi dans une atmosphère intimiste. On est presque perpétuellement dans des scènes d'intérieur. L'objectif permanent du réalisateur est de nous mettre dans la peau de ce fantôme, de nous faire poser sur ce monde qui disparaît petit à petit le regard que pose le fantôme. Et donc on se retrouve au milieu des choses et au milieu de ces pièces, un petit peu comme lui s'y retrouve, c'est-à-dire comme un spectateur, qui c'est une espèce de mélange entre un meuble et un spectateur invisible. Enfin, c'est...
En parlant de technique, moi j'ai beaucoup aimé la gestion qu'il faisait du son. Je trouvais que c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment bien travaillé, et notamment quand les sons font, font des transitions entre deux scènes et comment ils emplissent l'espace, parce que justement l'espace est vide avec ce personnage du fantôme qui ne bouge pas, qui reste immobile la plupart du temps. Du coup, ça nous pousse à prêter d'autant plus attention à l'espace sonore, et je trouvais ça vraiment intéressant. Et quand je suis rentrée chez moi, après, je regardais le monde autour de moi en écoutant, comme quand je regardais le film juste avant.
Ouais, absolument. Il y a une gestion du son qui m'a vraiment frappée. Alors, non seulement, effectivement, dans ce tour de force, lorsqu'il réussit à recréer un vide sonore qui, malgré tout, qui est vraiment présent, mais aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont il arrive à mêler, en fait, les strates temporelles du scénario en les couplant avec le son. Je pense par exemple à la scène où elle écoute la chanson que son compagnon avait composée, et le film joue entre une juxtaposition du moment où il lui fait écouter la chanson pour la première fois avec un son en casque, qui est contrebalancé avec des images lorsqu'elle réécoute après la mort donc de son compagnon avec des écouteurs. Et si on fait très attention, à un moment donné, elle tire sa main vers l'arrière pour toucher l'ourlet du fantôme qui la regarde, en fait, donc le fantôme de son compagnon. Et le son, en fait, se transforme d'un espèce de gain ou de qualité sonore d'oreillette pour redevenir le son d'une captation sonore en live, entre guillemets, quoi. Donc, effectivement, un travail du son vraiment magistral dans ce film.
Oui, et puis on peut peut-être enchaîner du coup sur le montage, parce que vous en avez parlé toutes les deux en filigrane, et qui s'appuie sur le son, mais aussi sur un montage à l'image qui parfois justement évacue le montage. Je pense à cette scène où la maison, elle va partir de la maison, elle va y être remplacée après quelque temps par une mère avec deux enfants, et on a un plan assez incroyable où on cadre la porte, d'un coup les enfants déboulent dans la maison, et en l'espace d'un petit travelling, on se retrouve avec une scène où d'un coup la maison est occupée, et donc ce montage, alors bon, il faut un moment qu'on prononce le nom de Terrence Malick, donc je vais peut-être le faire maintenant, qui alors éminemment malickien dans tout cet enchaînement extrêmement fluide des images, rend vraiment compte d'un rapport au temps qui n'est pas celui d'un être vivant humain. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui vont d'un coup durer, mais comme si on était au-delà de toute notion de durée, où on est vraiment dans quelque chose de purement mortuaire, où on voit une immobilité totale, et puis d'un coup on va avoir passé en l'espace d'un travelling des jours, des semaines peut-être, et il y a quelque chose d'extrêmement réussi, je trouve, là-dedans, et d'aussi de très très beau, et qui est déroutant à première vue.
J'ai l'impression, moi, qu'il a vraiment montré ce qu'était la mort avec ce temps justement très dissolu, qui peut prendre des heures, une seconde va durer des heures, et après des années vont durer quelques minutes. Et oui, donc vraiment rendre compte de ce qu'est la mort aussi avec cette façon très concrète de représenter le fantôme avec un gros drap percé grossièrement au niveau des yeux qui est là, mais vraiment concrètement dans l'espace on voit la matière du fantôme, et donc il en fait quelque chose de complètement banal et en même temps de très mélancolique, parce que il y a cette mélancolie qui continue à imprégner le film. Et du coup je trouvais que c'était vraiment très fin, en fait. C'était voilà, c'est l'arrêt du temps, c'est l'arrêt de la vie, c'est donc ce silence, c'est ce temps qui ne fonctionne plus comme pour les êtres vivants, comme disait Rémi. Et du coup je trouve que c'est voilà, on prend ça en pleine figure, et en fait voilà, ça n'a rien de dramatique, je m'embrouille, mais bon disons que c'est pas dramatique, c'est pas exceptionnel, c'est juste normal, c'est juste banal, et en même temps très triste et très mélancolique.
Et pour revenir sur ce drap blanc, je pense que c'est pas anodin de remarquer qu'il va jusqu'à faire disparaître l'acteur, c'est-à-dire que y compris la figure qui est censée incarner n'est plus là, parce qu'on ne voit vraiment que ce drap blanc, on oublie que dessous il y a encore un acteur qui est en train de jouer, et là aussi il réduit vraiment le dispositif cinématographique à une espèce de truc purement essentiel qui va droit dans ce vide qu'il essaye d'atteindre quelque part, et il nous représente cette figure complètement intemporelle, et qui a quelque chose d'éternel avec Enfin, disons que ça aurait pu être ridicule, mais ça a réussi à atteindre une forme de pureté. Et puis, effectivement, bah alors ce vide et l'espèce d'absurdité qui est rendue aussi par ces compositions millimétrées, enfin, chaque plan est vraiment, on sent que y a toutes les lignes sont exactement à leur place. Il y a quelque chose de complètement absurde parce qu'à chaque fois, il y a cette grande masse blanche qui est là au milieu et qui n'y a pas sa place. Et on atteint vraiment une tristesse qui a un niveau assez rare avec cette figure fantomatique étonnante. Il y a un vide aussi que les vivants essayent de combler. Alors, dans deux scènes importantes dans le film, la première, enfin, qui est en fait la deuxième, une scène de soirée avec une espèce de longue envolée lyrique, qui est presque le moment où on sent que le réalisateur a voulu dire des choses qui auraient pu rester implicites, mais on lui pardonne parce que c'est extrêmement bien fait. Et puis, il y a une scène terrible avec un autre vide qu'on essaye de remplir. Je la nommerai scène du gâteau pour ceux qui ont vu le film, mais je laisserai aux autres le plaisir de découvrir ce grand moment de cinéma. Mais où là aussi, ça met même vraiment mal à l'aise, où on se sent vraiment mal face à ce qu'on voit, et où ces images toujours très feutrées parviennent à atteindre quelque chose qui pourrait être de l'insoutenable.
Et là, il rend le temps douloureux, justement. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a presque déçue. Bon, j'adore quand même le film, mais ça m'a un petit peu déçue, c'est que justement, qu'il y ait un peu ce cliché quand même du fantôme qui doivent trouver la paix pour eux, qui est venu quand même alimenter le film un tout petit peu, donc c'est pas assez gênant pour que ça m'ait vraiment gêné, bref, je me répète, mais je trouvais qu'on aurait pu s'en passer, qu'on aurait pu garder ce côté épuré et ce vide complet jusqu'au bout sans avoir besoin d'ajouter une petite explication comme ça qui pour moi tombait un peu comme un cheveu sur la soupe et j'en avais vraiment pas besoin pour aimer le film.
Et d'un autre côté, ces moments où ces deux fantômes qu'on voit arriver au bout de leur souffrance sont là aussi filmés avec une retenue qui est incroyable, enfin, cette dernière image. Et puis même, alors ce fantôme va se fixer sur cette maison parce que donc le personnage joué par Rooney Mara en partant de la maison a laissé un petit mot dans un coin de mur. Et lorsque, là aussi, la dernière image, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement habile et qu'il y a une retenue qui est vraiment louable dans le fait qu'on ne lira jamais ce qu'il y a sur ce mot alors que le réalisateur aurait pu nous le faire lire un certain nombre de reprises. Et je trouve qu'il y a quand même vraiment une retenue qui fait plaisir à voir, quoi, parce que le nombre de fois que ça aurait pu aller trop loin,
c'est ça. Je crois que j'aurais mis un petit peu plus encore, moi.
Plus de retenue, ouais. Moi, je suis d'accord sur le fait que peut-être aussi que la structure du film, finalement, est un petit peu... allez, je vais pas dire facile, mais peut-être un petit peu attendue, avec cette espèce de boucle qui se referme sur elle-même... Voilà, peut-être que si on avait voulu aller dans la retenue, on aurait pu éviter l'écueil de la spirale temporelle qui se referme sur elle-même où tout était déjà écrit.
Et j'aurais aussi évité le moment où, enfin les moments, donc je vais pas s'en spoiler, hein, mais où le fantôme exprime des sentiments qui sont trop humains, justement, pour être ceux d'un mort, c'est-à-dire quand il va s'énerver, quand il va être triste, quand il va être jaloux. Pour moi, c'était des moments en trop. J'aurais préféré le garder dans cette immobilité, cette contemplation. Et je pense que nous, on aurait quand même interprété son immobilité de la manière dont il aurait fallu le faire, sans avoir besoin de le voir vraiment tout d'un coup, justement, entrer dans l'action. Et ça aussi, j'aurais presque préféré qu'il n'y ait pas ces scènes-là.
Bon, et puis peut-être pour après ces quelques réserves, on va finir sur quelque chose qui contribue quand même beaucoup à la beauté de ce film, finir sur la musique. Qui était composé par quelqu'un dont j'ai oublié le nom.
Qui s'appelle Daniel Hart.
Avec l'accent en plus. Mieux que tout ce que j'aurais pu dire. Et qui là aussi, bah, dans la contemplation un petit peu triste et un minimalisme efficace, on va dire, est quand même particulièrement belle. Je sais pas si il y a plus à en dire, mais en tout cas, il faut aussi aller voir ce film pour les ambiances qu'il suscite par sa musique. Et puis. Une chanson, la chanson qui va traverser le film et sur laquelle on va peut-être aussi terminer cette chronique, après bien sûr vous avoir vivement conseillé d'aller voir ce film A Ghost Story de David Lowery.
it too much? All the awful dreams felt real enough. Did she love her then? Was she waking up? Did she die in the night? Leave you alone. Love.
Allez, on se reprend et on continue, on termine cette émission avec quelques petites suggestions de sorties pour cette semaine au cinéma, chers auditeurs. Je commence avec le retour de Ricardo Darín dans le nouveau film de Santiago Mitre, El Presidente. Il joue donc le rôle d'un président argentin rattrapé par un scandale de corruption au milieu d'un sommet international dans la cordillère des Andes. Un de ces films politiques sud-américains comme on en a vu quelques-uns cette année, et puis par un réalisateur de talent et un acteur qu'on ne présente plus. Ça sort cette semaine ou la semaine dernière, peut-être même déjà, entre autres chez nos partenaires des cinémas Lumière. Également Vers la lumière de Naomi Kawase, la réalisatrice qui filme la rencontre entre une audiodescriptrice de film et un photographe qui devient peu à peu aveugle, avec la poésie coutumière à la réalisatrice Naomi Kawase. Donc. Et puis également Si tu voyais son cœur, thriller de Joan Chemla avec Gael Garcia Bernal, qui sombre peu à peu dans une atmosphère de violence sourde jusqu'à sa rencontre avec un personnage joué par Marine Vacht dans la pure tradition du noir, si on en croit la bande-annonce. Dans les films que nous avons chroniqués, par ailleurs, vous pourrez revoir en salle Au revoir là-haut et 12 jours chez nos partenaires des Cinémas Lumière, et puis également Coco, dont nous vous parlions juste avant les vacances. Du côté des avant-premières maintenant, une projection de La douleur d'Emmanuel Finkiel au Comédia cette semaine. C'est l'histoire d'une femme dans l'occupation, jeune épouse d'un résistant déporté, qui entre dans une relation trouble avec un agent de la Gestapo, puis vite avec la fin de la guerre, le chaos insoutenable de la libération. Mélanie Thierry, qui incarne le rôle, y est manifestement magnifique, on peut déjà le dire, d'autant plus que la caméra d'Emmanuel Finkiel la connaît bien, puisqu'il l'avait déjà filmé dans son précédent film « Je ne suis pas un salaud », qu'il faut absolument revoir si vous en avez l'occasion par ailleurs. Le film sera donc projeté en avant-première au Comédia, mardi 16 à 20h, en présence d'Emmanuel Finkiel et de Mélanie Thierry. Du côté des documentaires, Carré 35 d'Éric Caravaca sera projeté mardi 16 également, mais à 18h45 aux Lumières Bellecour. Et pour citer rapidement le réalisateur qui vous en donne un aperçu, Carré 35 est un lieu qui n'a jamais été nommé dans ma famille. C'est là qu'est enterrée ma sœur aînée, morte à l'âge de 3 ans, cette sœur dont on ne m'a rien dit ou presque, et dont mes parents n'avaient curieusement gardé aucune photographie. C'est pour combler cette absence d'image que j'ai entrepris ce film, croyant simplement dérouler le fil d'une vie oubliée. J'ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j'ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes. Ça sera donc mardi 16 à 18h45 aux Lumières Bellecour et ça s'appelle Carré 35. Autre documentaire dont vous avez peut-être entendu parler, Irine Sina, le documentaire autour du mouvement Alternatiba, fondé par quelques militants basques en vue de créer une grande mobilisation non violente pour le climat. Irine Sina, c'est un cri d'alarme sur l'effondrement de notre monde, mais c'est aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants déterminés qui ont réalisé que si ensemble ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. Ça sera projeté lundi 15 janvier à 20h au Comédia également, dans une rencontre avec Alternatiba Rhône. Et puis pour finir, à l'Institut Lumière, deux nouvelles rétrospectives, et lesquelles ? La première sera consacrée à Danielle Darrieux, l'immense actrice décédée l'an dernier, et pour cette semaine vous pourrez voir entre autres Battement de cœur d'Henri Decoing, où une jeune orpheline s'évade d'une maison de correction et entre dans une école de pickpocket. C'est une comédie extravagante et délicieuse autour de la jeune actrice qu'on y entend aussi chanter par ailleurs. Et puis, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, Madame 2 de Max Ophuls, où pour payer une dette, Madame 2 vend un bijou offert pour son mari. Plus tard, elle retrouve le bijou dans de troublantes circonstances. Voilà, peut-être le plus grand film de son réalisateur et certainement l'un des chefs-d'œuvre de Danielle Darrieux. Et puis on garde pour la fin la rétrospective consacrée à Tim Burton par ce même Institut Lumière, avec une soirée d'ouverture jeudi où sera projeté Ed Wood, film sur le célèbre Ed Wood, marginal d'Hollywood, travesti à 16 heures, créateur naïf et enthousiaste, mais considéré surtout comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. L'optimisme déraisonné de l'homme derrière la nullité fauchée de ses films en fait un personnage hors du commun servi par les réalisations pas moins hors du commun de Tim Burton. Et ça sera demain soir, donc jeudi, hein, à 20h, puis dimanche à 18h30 à l'Institut Lumière. Voilà, D'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous écoutiez Rémi Cerda, Caroline Hildebrandt, Maë Burla. A très bientôt sur les ondes de Transistor et puis bien sûr dans les salles obscures.